Mathieu Roy, bonjour.
Bonjour Louis, hey, je dois t'avouer que j'ai masqué pendant 30 jours comme jamais ce samedi, ce week-end. Je te parlais de cette option sur Facebook là, qui nous est accessible pour se priver de publication qu'on trouve peut-être un peu navrante. Mon Dieu, je me suis dit à un moment donné, Facebook va m'appeler. Vous exagérez pas un peu? Parce que je dois t'avouer que cette histoire de masque obligatoire polarisait et, mon Dieu, me décourageait dans certains cas.
Oui. Ben moi aussi, j'ai mis un post l'autre jour en disant que l'avantage de cette controverse sur le masque, c'est que ça te permet de faire du ménage dans tes amis Facebook. C'est vraiment le fun. Puis, soit dit en passant, les pages Facebook, là, c'est pas une page publique, c'est ma page à moi, je fais ce que je veux avec. T'sais. Fait voilà. Que quand j'ai des amis chez moi, ben je m'attends à ce qu'ils viennent pas cracher dans mon punch, dans mon bol de punch.
C'est plus estival que dans ta soupe.
C'est ça, exactement. Bon, tu veux nous parler de cet anniversaire. 51 ans aujourd'hui, on marchait sur la Lune. Et qu'est-ce qui se passe sur le site de la NASA?
Ben, allez faire un tour, parce que l'année dernière, c'était évidemment le 50e anniversaire et on avait fait un dossier hallucinant sur ces pas justement faits par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mm-hmm. Écoutez, sur le site de la NASA, vous allez dans la section « Mission Apollo 11 » et il y a des archives absolument invraisemblables. Que vous soyez fan ou non, allez juste voir à quel point on est allé sur la Lune avec des outils qui avaient absolument rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Et pour être allé au musée de l'aéronautique et de l'aérospatiale à Washington, j'ai vu des uniformes en fait d'astronautes qui ont servi à aller sur la Lune. Et ma foi, je pense qu'il y a des gens qui partent en skidoo mieux équipés que ça avec quoi on allait sur la Lune au début des années 70. Il y a des photos sur le site de la NASA qui sont renversantes, des vidéos, et il y a aussi des audios du centre de contrôle. Donc, allez faire un tour. Si vous êtes enseignant, en plus, là-dedans, il y a des mines d'or incroyables. Et j'irai avec une petite suggestion télé. Là, je m'immisce un peu dans l'art et spectacle. Mais sur Apple TV+, il y a une série qui s'appelle, je ne sais pas si tu la connais, « For All Mankind », pour toute l'humanité.
Non, je ne connais pas ça.
Écoute, on est en pleine course à la Lune entre l'URSS et les Américains. La prémisse, c'est ça. Là. Donc, je ne suis pas en train de dévoiler un punch. Et la planète entière est sur le qui-vive, retient son souffle. On est le 20 juillet 1969 et on attend les premiers pas de l'être humain sur la Lune. Et ça arrive enfin. Donc, tout le monde, les Américains, les Russes, mais partout sur la planète, les gens sont rivés devant leurs écrans. Et au moment où on fait les premiers pas, bon, on voit l'astronaute qui bondit, se tourne vers la caméra et les premiers mots qu'il dit sont en russe. On a simplement changé ce moment de l'histoire, c'est-à-dire que les Américains ont perdu une fois de plus une autre étape de cette espèce de course spatiale contre l'URSS. Et à partir de là, on voit comment, ben justement, le Congrès veut faire la lumière sur comment est-ce qu'on a pu laisser les Russes aller sur la Lune en premier, comment ça se fait qu'on n'a pas vu venir ça, mais aussi comment eux veulent essayer de se refaire une réputation et être les premiers dans quelque chose. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle « For All Mankind ».
D'accord. Soit dit en passant, depuis vendredi, tu m'as dit vendredi que le Flight Simulator 2020 était disponible. En fait, la date était annoncée là, pour le 18 août. J'ai acheté, j'ai précommandé en fait. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert précommander quand tu downloads quelque chose sur Internet, mais en tout cas, je l'ai fait.
Ben, je pense que des fois, tu as certains ajouts ou certaines exclusivités ou certaines modifications possibles. Et sauf erreur, je crois que ton dernier quart de travail sera le 7 août.
Oui, exactement.
T'auras du temps devant toi pour pouvoir t'amuser avec ton écran.
Ça va être le 18. C'est le 18 ou le 8 août?
C'est le 18.
Le 18, donc,
tu seras déjà en congé à ce moment-là. Tu pourras jouer sur ton écran de 7 pieds, si j'ai bien compris. Hein?
Ouais, c'est 49 pouces incurvés. Ah, okay. 4K, c'est une affaire de fou. Bon, d'accord. Bon, il y a quelqu'un qui me demande l'autre jour, c'est un peu exagéré, hein, ce moniteur-là? Et j'ai dit,
non.
Tout à fait.
c'est exagéré et assumé.
Exactement. Bon, le piratage chez Twitter dont ont été victimes plusieurs grands de ce monde se relève d'un pirate et non d'un groupe ou d'un État.
Et de jeunes pirates, c'est le New York Times qui a eu des conversations et semblerait que la thèse là, de l'espèce de groupe ou encore d'État, c'est pas ça du tout, ça serait un groupe de jeunes. Et il y en a même un qui, dans l'article, dit vivre encore chez ses parents, chez sa mère. Donc, ce qui était à l'origine de ça, c'était qu'on voulait prendre le contrôle de certains comptes qui étaient plutôt prisés, là, des comptes qu'on aurait pu revendre par la suite. Et on a utilisé la même technique, le fameux mercredi, pour pouvoir envoyer comme ça ce message sur des comptes qui étaient vraiment des comptes premium. Là, on pense à Jeff Bezos, à Elon Musk, à Bill Gates, le compte de Apple. C'était sensiblement la même l'espèce de même mécanique. C'est qu'on vous promettait de doubler votre don en Bitcoin si vous faisiez un dépôt sur un numéro de compte qui était dans la publication. Évidemment, tout ça était faux. On a quand même réussi à aller chercher une centaine de milliers de dollars, mais l'article du New York Times nous parle donc non pas d'un groupe extrêmement bien organisé, reconnu pour ça, non plus d'un État qui aurait pu être à l'origine de ça, mais bien d'un groupe de jeunes. La revanche des nerds, dites-vous? Je pense que oui.
Mais te souviens-tu du le hacker montréalais qui s'appelait Mafia Boy?
Exactement.
Qui était, tout le monde, il y avait eu un... il avait fait une percée dans je me souviens plus quel système, mais tout le monde cherchait un groupe des espions venus de Russie ou de Chine. Puis finalement, c'était un gars de l'île Bizarre, tu sais, qui avait 15 ans.
Exact. Ah ouais, de l'île Bizarre, tu as une très bonne mémoire. C'était effectivement ça. Puis si je me trompe pas, ça avait été sur Yahoo. Puis il y avait pas quelque chose de j'essaie de me rappeler s'il y avait pas des sites comme CNN, quelque chose comme ça.
Oui, aussi, je pense qu'il y avait CNN, il y avait Amazon, je pense, ou des trucs du genre. Puis il avait réussi à passer les pare-feux de ces grandes entreprises là. En tout cas, ça avait été. Alors que tout le monde cherchait un groupe hautement financé par et finalement ben c'est un gars dans le sous-sol de chez ses parents. Et
c'était une technique assez simple. Hein, c'est qu'on surchargeait comme ça les serveurs où étaient hébergés ces sites-là. Et il y avait tellement de requêtes qu'à un moment donné, les serveurs faisaient simplement arrêter ou espacer les différentes demandes. Ouais.
Bon, on reste chez Twitter. Il y a une autre application de Donald Trump qui a été désactivée.
Oui, c'est sa publication. En fait, c'était un retweet du responsable des réseaux sociaux de la Maison-Blanche, une vidéo dans laquelle on utilisait la chanson « In the End » de Linkin Park. Alors, comme c'est très souvent le cas depuis un certain temps, Linkin Park a tweeté en disant « Nous n'avons pas soutenu et ne soutenons pas Donald Trump, pas plus que nous l'autorisons à utiliser notre musique. » Il y a une lettre de mise en demeure qui a été envoyée. Alors là, quand Donald Trump va vouloir utiliser de la musique, que ce soit dans ses rallyes ou encore dans ses vidéos promotionnelles ou ses vidéos de campagne, ben là, Linkin Park, on peut pas, les Rolling Stones non plus, Neil Young, ne vous avisez pas. La musique de Tom Petty, Aerosmith, rien. Anna, Elton John, Queen, il commence à avoir bien peu de choix, Donald Trump, quand viendra le temps de meubler musicalement parlant ses différentes apparitions ou encore ses différentes vidéos.
Certains jeux vidéo s'adaptent très vite aux nouveaux enjeux sociaux. Lequel?
Celui, en fait, des Premières Nations. Hein? On en a entendu parler récemment. Dans la NFL, l'équipe qui cause problème, ou c'est les Redskins de Washington. T'en as très certainement entendu parler. Ils ont décidé qu'ils considéraient donc changer le nom. Et Electronic Arts a un jeu qui s'appelle Madden NFL, un jeu extrêmement bien fait. Si vous êtes amateur de football, c'est un incontournable et vous le connaissez sans doute. Ce jeu-là fait des prédictions quand même assez étonnantes, d'ailleurs, quand vient le temps du Super Bowl. Ouais. Et le jeu doit sortir le 25 août, donc dans à peu près un mois, jour pour jour. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une mise à jour où les Redskins de Washington, le nom et le logo seront changés. Donc, il y aura un nom et un logo générique jusqu'à temps qu'on prenne une décision. Et là, ça veut dire qu'on va retirer toutes les références. Donc, oui, bien sûr, quand viendra le temps de choisir l'équipe, le logo, l'uniforme sera remplacé. Mais si dans d'autres stades de la Ligue, il y a des logos des Redskins de Washington, eh bien, ces logos-là seront enlevés aussi. Les gens dans la foule porteront pas les couleurs des Redskins, mais ça veut aussi dire que tout ce qui est audio et commentaires de description dans le jeu, eh bien, on va retirer les Redskins de Washington. Ça sera remplacé par un nom qui sera éventuellement dévoilé, là.
Eh bien, on s'adapte rapidement. Merci, Mathieu. À demain.
À demain.
Salut.